pourquoi j'ai choisi l'épître à Philémon. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'aime bien présenter des personnes et raconter des histoires. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a des passages qui sont particulièrement, réjouissants à lire. Je me rappelle quand j'étais gamin, ou jeune, et qu'on allait avec nos vélos jusqu'à l'Auriol, donc ça fait 10 km, pour la réunion de l'après-midi, parce qu'il ne fallait pas rater une réunion. Donc on allait jusqu'à l'Auriol. Et puis là, il y avait mon tonton qui parlait des fois, et qui disait « gna 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 gna, n'est-ce pas ?»« Gna 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 gna, n'est-ce pas ?»« Gna 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 gna, n'est-ce pas ?» Et puis, bon, on écoutait. Non, je ne dis pas du mal. Les gna gna étaient très intéressants. Mais on comptait les n'est-ce pas, nous. Et puis, environ 3 ou 4 fois par an, on avait droit à la Samaritaine. Etc. Enfin, c'était très bien. Alors, j'ai pris l'habitude, pendant ces réunions où je m'ennuyais prodigieusement, de lire les histoires de la Bible. Alors, bien sûr, étant jeune, je lisais le Cantique des Cantiques, parce que ça me titillait un peu. Puis, je lisais aussi Ruth, Esther, Philémon, des trucs comme ça. Et ça a dû me marquer dans ma... Donc, j'ai choisi cette année de vous parler de Philémon. Et puis, pour continuer le thème qui nous a occupé quand même beaucoup cette semaine, la liberté, hein, les relations sociales, les relations fraternelles et tout ça, finalement, sans qu'on se soit concerté à l'avance, Dieu avait préparé tout un fil rouge dans ce qu'on a vu cette semaine. Alors, j'espère que je vais savoir me servir de cet engin moderne. Donc là, vous avez... un esclave qui sert son maître. Alors, je ne voudrais pas être méchant, mais s'il lui donnait une baffe, je pense que le maître, il... Donc, il y avait plusieurs catégories d'esclaves au temps de l'apôtre Paul, et je n'ai pas résisté à vous mettre cette image. Esclaire, esclave, c'est dur à admettre, maître. Voilà. Et... on va parler un petit peu des relations sociales au temps de Paul, et puis on ne va pas s'arrêter au temps de Paul, parce que les relations sociales, ça existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous... On a parlé plusieurs fois des gilets jaunes. Alors, je ne sais pas si j'en parlerai, parce que finalement, on en a beaucoup parlé, mais j'avais prévu d'en parler. Voilà. Donc, une espèce de plan, je ne sais pas si j'arriverai à le respecter, on verra. Donc, le contexte historique, géographique, le contexte politique et social... le contexte local de Colosse, donc. Le problème, quel est le problème dont parle l'épître à Philémon, les recommandations de Paul, et puis quelques réflexions sur l'esclavage, Jésus et l'esclavage, Paul et l'esclavage, et puis d'autres indications, et puis une conclusion, ou plusieurs conclusions plutôt, puisque ce sera peut-être le moment de réfléchir un petit peu. Alors, le contexte géographique, Colosse est ici. Pas de chance. C'est pas le bon. Colosse est ici. Tac. Donc, il y a Laodicée qui est tout près. Et puis, l'autre ville, c'est Hierapolis, qui est maintenant Pamukkale, hein, où il y a des thermes romains. C'est extraordinaire. Quand on passe en bas de la ville de Hierapolis, ça fait un mur avec des piscines blanches, comme ça, c'est extraordinaire. Alors, Colosse, c'est une ville très importante. Donc, je ne sais pas si vous voyez le trait rouge, là. C'est une voie romaine, une voie plutôt avant les Romains, qui va de Éphèse jusque dans le centre de la Turquie actuelle, vers les... Et c'était un endroit très important, très, très, très couru. Et Colosse était une ville importante. Par contre, manque de peau, elle se trouvait, bien, comme pas mal de choses là-bas, sur un endroit où il y a des tremblements de terre. Et elle a été complètement détruite au 2e siècle, je crois, ou au 4e siècle. Non, c'est pas ça, je ne sais plus. C'est pas grave. Mais on a Alexandre le Grand qui parle de Colosse en disant que c'est une ville importante, etc. Et puis après, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça a perdu de son importance à cause des tremblements de terre et puis à cause de Laodicée, qui est devenue une ville très importante. On a visité Laodicée avec Étiennette. C'est extraordinaire, la grandeur que ça pouvait avoir. Et en plus, de Laodicée, on voit Pamukkale de l'autre côté. On voit une grosse tache blanche là. Et c'est magnifique. Et à Laodicée, ils sont en train de fouiller. Et ils ont. Le guide nous disait que chaque fois qu'ils y vont, ils trouvent quelque chose de nouveau. Il dit, pour les guides, c'est déstabilisant parce qu'ils vont tellement vite avec les ordinateurs. Maintenant, ils ont des ordinateurs, ils prennent en photo les pierres, tac-tac, avec les dimensions et tout ça. Et c'est l'ordinateur qui les assemble pour refaire le monument. Et du coup, chaque fois qu'il y va, il y a des monuments nouveaux, il n'est même pas au courant. Et puis, il est obligé de se mettre. Voilà. Donc, Laodicée, une ville extrêmement importante. Et ils ont trouvé une pierre qui disait quoi? Il y avait marqué sur la pierre, nous nous relèverons nous-mêmes ou quelque chose comme ça, hein, qui correspond bien à l'esprit de Laodicée dans l'Apocalypse. Donc, on revient à Colosse quand même. Hein. Alors, la ville perd son importance plus tard parce que Laodicée a pris beaucoup plus d'importance et la voie romaine passe par Laodicée. Mais il y a quelque chose qu'on trouve à Colosse qui est unique, c'est le colocynus, paraît-il. C'est une laine teintée dans le rouge pourpre. Et vous savez que les gens bien, au temps de Paul, ils aimaient bien s'habiller de pourpre parce que ça faisait gouverneur, ça faisait. Donc, c'est quand même resté une ville importante jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, pendant le règne de Néron, c'est-à-dire à peu près à cette époque-là, elle est détruite par un tremblement de terre, complètement détruite, et les Colossiens vont s'installer à quelques kilomètres de là, dans une ville qui existe encore, qui s'appelle Onaz. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en turc, mais je crois que c'est Chonaï, ça s'écrit au moins comme ça. Voilà. En bas, vous avez une pièce de Colosse, donc quand on regarde de près et que c'est clair, on voit qu'il y a marqué Colo, etc., ici, là. Hop, c'est ça, ici, là. Il y a marqué colo et quelque chose. Voilà. Donc, c'est une pierre d'origine, c'est pas moi qui la possède. Alors, voilà l'endroit de Colosse. Donc, ce qu'on voit quand on est sur la route, on voit un tas de terre. Et puis, ici, alors, c'est ici. Voilà. C'était Colosse. C'est pas fouillé. Ils n'ont pas encore commencé à fouiller c'est des champs. Alors, le contexte social. Donc, le problème, on en parlera plus tard, mais c'est l'esclavage. Et au temps des Romains, puisque ce sont les Romains qui dominent, on est esclave par naissance, par prise de guerre ou par enlèvement. Et puis, si on a des dettes. Alors, si on a des dettes, on peut être esclave pendant le temps qu'on rembourse. Ou bien, si on a une grosse dette, c'est définitif. Alors, sous la loi romaine, l'esclave n'est pas une personne, mais un bien. C'est-à-dire que c'est comme un meuble ou une voiture. Hein. Je peux le vendre, je peux m'en débarrasser. Les maîtres romains avaient le droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Au temps de Paul, ça avait été adouci. Il n'y avait plus ce droit de vie ou de mort. Les gens étaient obligés de s'occuper de leurs esclaves quand ils étaient vieux. Théoriquement, bien sûr, c'est comme maintenant la différence entre la théorie et la pratique. Et puis, il y a différentes sortes d'esclaves. Donc, il y a les esclaves des villes. Et souvent, ce sont des serviteurs qui ont un certain statut social. Et chez les Grecs, il y en a même qui étaient arrivés à une haute position sociale, puisque beaucoup étaient médecins, étaient pédagogues, avaient une vraie position sociale et gagnaient bien leur vie. Et ils pouvaient même se racheter. Il y avait. Ceux dont les maîtres n'étaient pas contents, on les envoyait à la campagne. Je ne sais pas si vous avez vu, sur la première image, il y en a un qui était en train de semer ou de biner, je ne me rappelle plus. Déjà, c'était un peu plus dur parce que dans ces pays-là, il fait un peu chaud. Hein. Et puis ici, si vous mettiez cet après-midi à bêcher là-devant, peut-être que vous comprendrez un petit peu ce que c'est que le travail de la terre. Et puis, s'ils étaient pas sages à la campagne, eh ben on les envoyait dans les mines. Et dans les mines, c'est la mort assurée, puisque les mines, c'était un travail extrêmement dur, avec des horaires, etc. En bas, vous avez le collier d'un esclave. Donc ceux qui étaient un peu rebelles, on leur mettait un collier, ou au pire, on leur gravait sur le front qu'ils étaient des esclaves. Alors, on pouvait s'affranchir, mais le problème, c'est qu'après, il fallait trouver soi-même son travail. Hein. Alors, on pouvait se racheter en économisant de l'argent, mais la plupart des travaux étaient déjà accomplis par des esclaves. Donc, il fallait après se débrouiller. Alors, si on était médecin ou pédagogue, on trouvait peut-être moyen de trouver un travail intéressant et bien payé. Mais si on était mineur au sens de travailler dans la mine, même si on arrivait à se racheter, on ne trouvait pas forcément un travail intéressant. Du coup, il y avait énormément d'esclaves qui restaient esclaves, qui n'étaient pas trop maltraités et qui se contentaient de leur sort. Hein, on dit qu'il y avait au moins 30% de la population romaine qui était esclave. Donc il y avait après les hommes libres, et puis la catégorie au-dessus, c'était les citoyens romains. Voilà. Alors, le contexte local. Alors, local, ou oui, c'est local, parce que Paul est à Rome. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais moi je pense qu'il était à Rome, par rapport à la date d'écriture de l'Épître aux Colossiens, qui est du même temps que l'Épître à Philémon. Hein. Environ 62. Donc, il est avec un soldat romain et il avait une certaine liberté. Voilà. Donc, il écrit à l'Assemblée de Colosse, donc l'Épître aux Colossiens, et c'est une église qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais visitée, mais il connaît des gens. Donc, il connaît d'abord Épaphras, Épaphras, dont il parle dans l'Épître et à d'autres endroits, Épaphras est avec lui à Rome. Et Épaphras a été celui qui a évangélisé à Colosse et qui a créé, entre guillemets, cette église à Colosse. Et il connaît Philémon, qu'il appelle son bien-aimé, c'est-à-dire quelqu'un qui lui est proche, hein. Et c'est un compagnon d'œuvre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui. Il connaît sa femme. On dit que c'est sa femme, bon, je ne sais pas, mais c'est possible. Apphi ou Apphia. Et puis, il connaît aussi Archippe. Ou Archippe, je ne sais pas comment on dit. On dit comment en grec, au fait? Tu ne sais pas? Tu n'y étais pas?
On le dit.
On le dit, ouais. Bon. Alors, je dirais Archippe parce que moi, je parle français. Donc Archippe, et lui, c'est un compagnon d'armes ou de combat. Donc voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu avec lui. Et comment il se battait, l'apôtre Paul? Combattant toujours pour vous plus fort, par des prières. Hein. Donc ça veut dire que Archippe était peut-être aussi quelqu'un qui aimait prier, qui combattait avec l'apôtre Paul. Donc Épaphras, qui est un esclave du Christ Jésus, qui est un compagnon de captivité. Ailleurs, il appelle notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous. Hein, c'est pas mal, hein, Epaphras. Voilà. Et puis, il connaît aussi Onésime, donc, qui est un des acteurs principaux de cet épître. Onésime. Qu'est-ce que ça veut dire, Onésime? Ça veut dire qui est utile. Donc, il profite de cet envoi de plusieurs lettres. À l'époque, la poste marchait mieux que celle de la France aujourd'hui, mais pas si bien que ça. Donc, quand il écrivait une lettre, il l'envoyait par quelqu'un, en général, et puis il portait plusieurs lettres à la fois. Et on apprend par l'Épître aux Colossiens qu'il envoyait aussi une lettre à Laodicée. Et puis, une lettre à Philémon et une lettre à l'Église. Donc, il y a au moins trois lettres qu'a portées ce monsieur, et sans doute un peu plus. Et cette lettre est arrivée, où ça? À Colosse?
Non, elle est arrivée jusqu'à nous.
La poste marche quand même pas si mal que ça. Hein? Bon, alors, voilà. Alors, la lettre aux Colossiens parle d'Archip. Hein, elle lui dit, dites à Archip de faire ce qu'il doit faire. Hein? Mais elle ne parle pas de Philémon. Pourquoi, à votre avis? Et c'est une question à 2 euros, ça. Pourquoi il ne parle pas de Philémon dans l'épître aux Colossiens? Parce qu'il y a une lettre à Philémon, direct, tout simplement. Et parce que Philémon, de toute façon, il allait aussi avoir cette lettre colossienne, puisque quoi? Puisque l'assemblée se réunissait, au moins une assemblée de Colosses, parce qu'il pouvait y en avoir plusieurs, on voit ça à Rome, hein, par exemple, hein, se rassemblait dans sa maison.
Donc, pour les 2 euros, on fait comment?
Tu auras 2 euros. Un chèque, espèce... Voilà. Donc, Onésime, et Onésime, dans l'épître aux Colossiens, il l'appelle le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Vous vous rendez compte? Oh. Comment il peut dire une chose pareille de quelqu'un dont on va apprendre qu'il est esclave, qu'il est un fugitif et que probablement il est parti en emportant quelque chose. Alors, Paul, il écrit cette lettre aux Colossiens pour les avertir de plusieurs dangers qu'il connaît. Hein. Donc, apparemment, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait des. Il fallait arriver à la connaissance de Dieu par des intermédiaires, des initiations et tout ça. Il y en a d'autres, les Juifs dont on a parlé plusieurs fois aussi cette semaine, qui disaient qu'il faut respecter le sabbat et tout y quanti. Alors lui, il essaye de remettre les choses en place. Et le remède, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ, le Seigneur, le premier, hein, l'origine de la création, le chef, le premier, l'origine dans l'Assemblée, et en qui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Hop. Donc ça, je l'ai déjà dit. C'est le chef et le triomphateur de toute autorité à la croix, chapitre 2, assis à la droite de Dieu au chapitre 3. Donc, le remède à toutes ces tendances, ces hérésies qui commençaient à se répandre, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, qui est Philémon? Ben, Philémon est riche. Pourquoi il est riche? Parce qu'il a une maison, une maison assez grande pour réunir l'Assemblée. Quoique, on ne sait pas finalement comment ils étaient. S'il y avait juste Epaphras, Archip, etc., ça ne faisait pas beaucoup de monde. Mais on pense qu'il était riche parce que Paul lui demande éventuellement de lui préparer un logement. Ça veut dire que dans sa maison, il y avait aussi possibilité de loger. L'apôtre l'appelle son compagnon d'œuvre, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec lui. Alors, comment ça se fait que Philémon ait travaillé avec Paul alors que Paul n'était jamais allé à Colosse? Ben, ça veut dire qu'ils se sont rencontrés tout simplement ailleurs. Et s'ils se sont rassemblés ailleurs, où ça pouvait être? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la carte de tout à l'heure, mais entre Colosse et Éphèse, il n'y a pas une si longue distance, et Paul est resté longtemps à Éphèse. Il y a enseigné pendant des jours et des jours, et ça devait se répandre. « Ah, il y a un type là-bas à Éphèse qui raconte des histoires, c'est pas... » Et on allait le voir dans l'école de Tyrannus, et puis on écoutait tout ça. Et Philémon a peut-être rencontré Paul à Éphèse ou ailleurs. Ça, on ne le sait pas. Ça fait partie des questions que j'aimerais voir le film de la vie de Paul quand on entrera dans le ciel. Voilà. Alors, on suppose que Philémon s'est converti à Éphèse ou dans les coins. Et puis, donc, on a Apphie qui est... on dit que c'est l'épouse de Philémon. Ce qui est possible, puisque dans l'épître à Philémon, elle est saluée particulièrement et Archippe serait leur fils. Entre parenthèses, Archippe, ça veut dire le chef des chevaux. Donc ça veut dire qu'il aimait peut-être les chevaux. Alors je le comprends très bien parce que moi j'aime les chevaux vapeur. Hein? Donc voilà. Et le Seigneur, de temps en temps, est obligé de me dire « Prends garde au service que tu as reçu, afin que tu l'accomplisses. Hein. Pense pas toujours à tes chevaux vapeur. Voilà. » Donc, Philémon est riche. À quoi on voit qu'il est riche? D'abord, sa maison. Ensuite, il a des esclaves, au moins un esclave. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on évaluait la richesse des gens au nombre d'esclaves qu'ils avaient. En plus, il peut accueillir l'Église et il peut loger l'apôtre. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Ben, Philémon, c'est un bien-aimé. Ah. Paul l'aime, et l'aime bien. C'est déjà pas mal. Il avait de bonnes relations avec lui, ils s'aiment bien, tous les deux. Et c'est un compagnon d'œuvre. Il a travaillé avec, et quand on travaille avec quelqu'un, ça crée des liens qui sont forts. Quand on travaille avec, surtout quand on travaille dans l'œuvre du Seigneur, ça crée des liens qui ne peuvent pas se détruire. D'ailleurs, j'ai lu ces jours-ci, là, en suivant une conférence, que Paul parle de Barnabas. Y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit d'emmener une sœur avec nous et de ne pas travailler ou quelque chose comme ça, hein? Ça veut dire que Paul, quand il écrit aux Corinthiens, je crois que c'est dans les Corinthiens, hein, Barnabas, il a des relations avec lui. Hein, il n'a pas oublié Barnabas, même s'ils se sont disputés une fois à propos de Marc, de Jean-Marc, il y a quand même cette relation qui est restée, cette relation de travail, c'est ce qu'ils ont apprécié l'un à l'autre, hein, l'un avec l'autre. Voilà. Alors, c'est un compagnon d'œuvre de l'apôtre, et puis son amour et sa foi envers le Seigneur Jésus et envers tous les saints sont connus, et connus de tous, c'est public. Que Philémon aime le Seigneur Jésus et il aime tous les saints. Et cela apporte de la joie et de la consolation à Paul et du réconfort aux chrétiens. Et puis, Paul dit aussi dans l'Épître qu'il est digne de confiance, au point de faire plus que ce que Paul va lui suggérer. C'est important, c'est d'avoir confiance en quelqu'un, de lui dire « Tiens, j'aimerais bien que quelqu'un fasse ça. » Et puis hop, on s'aperçoit que non seulement il le fait, mais en plus il fait encore plus et il dépasse tout ce qu'on lui a confié ou ce qu'on aimerait qu'il fasse. Alors là, je vous ai mis une villa urbaine, le plan d'une villa urbaine au temps des Romains. Donc on a des endroits communs là, avec même une piscine au milieu, un endroit où il fait frais, et puis ici une autre cour intérieure, ce qui ferait énormément plaisir à ma femme d'avoir une cour intérieure comme ça avec une piscine. Hein. Et puis après il y avait les logements des esclaves, et puis la boutique, les réserves, tout ça. Et ça, c'est une maison urbaine, mais quand on visite les villas romaines rurales, donc moi j'en ai vu une en Belgique, et puis j'ai étudié un petit peu ça quand j'étais encore sur les bancs de l'école, c'était des villages complets, c'était carrément un hameau avec la maison d'habitation, les écuries, les logements des esclaves, tout le bazar, quoi. C'était vraiment immense, hein. Il y en a une à Privas d'ailleurs, ils ont trouvé une villa romaine à Privas sous la zone industrielle, et puis comme il y a des industries dessus, ben, ils n'ont pas pu fouiller plus, ils ont tout rebouché. Une villa.
C'était où ?
À Privas. C'est la ville à côté de chez moi. Ça n'a aucune importance. Donc ça faisait carrément un petit village. Alors, le problème, on a déjà parlé un petit peu du problème. Hein. Alors, je sais pas, j'avais prévu de lire que des parties, mais je crois qu'on va lire l'épître complète parce que c'est quand même... Elle n'est pas très longue. Hein. J'avais le temps de la lire trois fois pendant que mon oncle disait, n'est-ce pas ? Alors, je vous la lis, hein, à moins que quelqu'un veuille lire. Quelqu'un veut lire? Non? Pas de volontaire? Prends le micro. Je sais pas. Non, je le dis alors. Ouais. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, le bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à la sœur Apphie, et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. C'est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te commander ce qui convient, à cause de l'amour, je te prie plutôt, étant tel que je suis, Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les liens, Onésime, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, lequel je t'ai renvoyé. Lui, mes propres entrailles. Moi, j'aurais voulu le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît pour toi dans les liens de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais ne fût pas l'effet de la contrainte, mais qu'il fût volontaire. Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour associé à toi, reçois-le comme moi-même. Mais s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main, moi je payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi. Oui, frère, que moi je tire ce profit de toi dans le Seigneur, rafraîchis mes entrailles en Christ. Ayant de la confiance dans ton obéissance, je t'ai écrit sachant que tu feras même plus que je ne dis. En même temps, prépare-moi aussi un logement, car j'espère que par vos prières, je vous serai donné. Epaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, te saluent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà. Donc, Paul, il commence souvent par ses mots dans ses épîtres, Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, et c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Et là, il ne commence pas comme ça. Tiens, j'ai pas fait attention dans l'épître à Timothée, comment il parle, aux Colossiens. Eh oui, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Là, il ne dit pas Paul, apôtre, il dit Paul, prisonnier. Et pas prisonnier des Romains, pas prisonnier de Néron, il dit prisonnier de Jésus-Christ. Donc il ne se pose pas en grand chef, hein, mais en esclave, en prisonnier, pardon. Excusez-moi. Alors, celui-ci, d'être au lieu, Onésime, au lieu d'être utile comme son nom l'indique, il a été inutile. Hein, On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a pas le détail le déroulement des choses. Mais on sait une chose, c'est qu'il n'était plus chez Philémon puisqu'il était à Rome. Bonjour Jean-Luc.
C'était notre invité surprise. Vous savez, je vous en ai parlé hier.
Donc, Onésime a été vraiment inutile parce qu'un esclave qui est à Rome, il ne peut pas servir son maître qui est à Colosse. Puis en plus, à mon avis, il devait ruer dans les brancards depuis déjà quelque temps parce que pour se sauver, un esclave, il fallait vraiment qu'il ait des tripes, hein, et qu'il ait envie de quitter sa condition. Les Romains n'étaient pas particulièrement tendres pour les esclaves en fuite. Il y avait dans tous les ports et dans tous les nœuds routiers des chasseurs d'esclaves qui étaient spécialisés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur mettait un collier d'abord. Et puis, s'ils récidivaient ou même si on était un peu plus méchant, on leur mettait sur le front gravé au fer rouge « esclaves en fuite ». Je ne sais plus comment ça se dit en latin, mais c'était « pop, pop, pop ». Et ce qui les marquait à vie, hein. Même s'ils arrivaient à se libérer, après, ils avaient toujours cette marque d'infamie sur leur front. Voilà. Alors lui, apparemment, Onésime, Philémon n'était pas au courant qu'il était à Rome, puisque Paul le lui écrit, et c'est certainement que c'était un esclave fugitif. Paul l'a engendré dans les liens. Ça veut dire que Paul, comme prisonnier, a eu ce contact avec Philémon. Alors là, il y a plein de théories, hein. On peut dire que Philémon était certainement en prison. Oui, mais s'il était en prison, c'est qu'il avait fait une bêtise. Un esclave qui fait une bêtise, qui était condamné, ben on le crucifiait. Hein. Ou bien... Hein. Pardon.
C'est Onésime,
pardon, oui. Oui. Donc, on ne sait pas s'il était en prison, au fond. Peut-être que Paul, qui avait une certaine liberté, il y avait des gens qui venaient le voir. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, tiens, on va voir quelqu'un qui parle bien le grec, là, il l'a amené, puis elle arrive devant Paul, « Ah, mais je le connais, lui !» Et puis Paul, il a dû dire, « Ah, mais moi aussi, je le connais, je l'ai vu chez Philémon, celui-là hein ?» Bon, ça, je ne sais pas, et puis ça fera partie des parties du film que je demanderai à voir quand on arrivera là-haut. Comment Philémon est arrivé dans la connaissance de... Alors qu'il venait dans une ville, Rome, c'était la plus grande ville du monde, sauf Pékin peut-être, mais Pékin n'existait pas peut-être, je ne sais pas, hein, mais la plus grande ville du monde romain, et il était certainement venu à Rome pour se fondre dans la foule et passer inaperçu, faire son petit trou, et puis après, hop, voilà. Et puis voilà que, manque de peau, hein, ou plutôt avec beaucoup de peau, hein, il tombe sur Paul. Et que fait Paul? Ben Paul, il ne savait faire qu'une chose. Qu'est-ce qu'il savait faire, Paul? Annoncer l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Onésime? Il lui annonce l'Évangile. Et puis, il l'engendre dans les liens, ça devient son enfant. Hein? Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré les liens, Onésime, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, lequel je t'ai renvoyé. Alors, j'ai appris hier, avec Sébastien, qui est un spécialiste de Philémon, que quand un esclave était retrouvé comme ça et qu'il acceptait de rentrer chez lui, on lui donnait une lettre en disant « c'est un esclave qui rentre chez lui de bonne volonté, donc laissez-le tranquille ». Et peut-être que cette lettre, c'était aussi son sauf-conduit pour rentrer jusqu'à Colosse et retrouver son maître. Voilà. « Je te l'ai renvoyé, lui, mes propres entrailles ». Je ne sais pas si vous avez vu combien de fois si vous avez entendu plutôt, ou vous lu, combien de fois il est parlé des entrailles dans cette lettre. Vous avez entendu? Combien de fois? Trois fois. Trois fois. Hein? Et puis, ça fait penser dans l'Évangile de Luc, les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Ça veut dire ce qui nous prend aux tripes. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, vous les parents, mais moi, je me rappelle quand mes petits, je voyais, bon, ils couraient toujours, hein. Ils étaient toujours en train de courir. Et puis, de temps en temps, ils ramassaient une gamelle. Et ça me serrait là. Chaque fois que je les voyais, je disais « aïe !» Et puis, ça serre là. Hein. Mais l'apôtre Paul, c'est ce qu'il ressent. Alors souvent, on présente l'apôtre Paul, vous savez, c'était le théoricien. Ouais, mais attends, l'apôtre Paul, il parle de lui comme un père qui engendre, comme une mère, comme une nourrice chérie ses propres enfants. On n'a pas idée de l'amour de l'apôtre Paul pour ceux qu'il avait rencontrés tout au long de sa vie. Hein. D'accord, c'était quelqu'un qui était droit dans ses bottes. Mais souvent, on le présente comme un misogyne, quelqu'un qui est comme ça. Hein. Mais non, l'apôtre Paul avait une véritable affection pour ceux. Donc, 1 Corinthiens 15, « Quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Oh. Par l'Évangile. Et puis, comme une nourrice, c'était écrit aux Thessaloniciens, comme une nourrice chérit ses propres enfants, ainsi vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'Évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, car vous nous étiez devenus fort chers. C'est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te commander ce qui convient, à cause de l'amour, je te prie plutôt. Alors, vous voyez, le grand apôtre Paul, celui qui est capable de parler devant l'Aréopage à Athènes et de dire aux Athéniens, Dieu ordonne que tous, en tout lieu, ils se repentent parce que... Hein, non, là, je te prie, mon cher Philémon, je te prie, s'il te plaît. Hein. Voilà. Mais pourquoi a-t-il renvoyé Onésime à Philémon, alors que Onésime aurait pu le servir comme ça, hein? Pourquoi? Parce que ce sont les affaires de Philémon et qu'il respecte les affaires de Philémon. C'est pas à lui de prendre une décision dans cette... La loi dit que Philémon est le maître d'Onésime, c'est à Philémon de prendre ses décisions. Lui, il dit seulement son désir, ce qu'il aimerait. Hein? Voilà. À cause de l'amour, je te prie plutôt. Moi, j'aurais voulu le retenir auprès de moi afin qu'il me servît pour toi dans les liens de l'Évangile. Hein? Paul avait sans doute une soif terrible d'affection, de compagnie. Hein? Il était quand même prisonnier. Hein? Même si les Juifs venaient le voir, on voit que ça ne se passait pas toujours très bien. Peut-être qu'il y avait quelques frères qui venaient le voir, mais il aurait aimé avoir cet Onésime à côté de lui pour le servir, ne serait-ce que pour parler avec quelqu'un, parce que le soldat romain, peut-être que, je ne sais pas si c'était un gars qui avait tellement de... Enfin, je ne sais pas si vous avez fait l'armée, mais souvent, on n'est pas... Avec les militaires de carrière, on n'a pas beaucoup de contacts intéressants. Enfin, pour moi, je n'en ai pas eu en tout cas, hein. Avec les collègues appelés, oui, mais avec les militaires de carrière, ça se limitait un peu. Je me suis même engueulé avec mon colonel, alors, parce que il prétendait apporter l'Évangile avec le fusil au Maroc et tout ça. J'ai dit, ouais, ben, si vous l'amenez avec l'épée, ben, il ne faut pas vous étonner si après on vous... Il me dit, ça va, Oumia, ça sortait, allez. Voilà, bon. Du coup, je ne suis pas monté tellement en grade. Philémon a la liberté d'agir comme il voudra, comme il lui plaira. Hein. Mais il ne s'est pas contraint par un ordre apostolique. Il connaît le cœur de l'apôtre, puisqu'il a été son compagnon d'œuvre, et parce qu'il est un bien-aimé. Il sait l'amour que Paul a pour lui et pour tous. Donc, à cause de l'amour, un amour pour le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Philémon aime tous les saints. Donc, puisque Onésime est un saint, il l'aime aussi. Onésime en fait partie. Et puis, surtout, on a l'habitude, peut-être, nous les plus vieux, on sait ce qui est bien. Alors, on aimerait bien que tout le monde fasse ce qui est bien comme on aimerait que ce soit fait. Alors que peut-être qu'il faudrait qu'on laisse les gens faire le bien à la manière que le Seigneur... La manière dont le Seigneur leur montre. Non. Que le Seigneur leur montre. Ouais. Voilà. Donc, voilà ce que fait Paul. Il dit, voilà ce qui est bien. Philémon, tu es libre. Alors, il y a un but à ce problème. Onésime n'est pas partie par hasard. Vous savez, il y a une chanson de Pierre Lachat qui dit « Le hasard avec un grand D majuscule hein, », mais selon un dessein déterminé. Avant, tu le possédais comme un esclave. Maintenant, il est au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé. C'est un frère pour moi, un frère bien-aimé pour moi. Et spécialement de toi, non, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alors, soit dans la chair, pourquoi ? Dans la chair, c'était pas son père, c'était son maître. Mais il fait partie de la maison. Et dans la maison, il y avait quoi ? À la cime, il y avait le pater familias. Et le père de famille, c'était quelqu'un, hein, le père. C'était non seulement le maître, mais c'était celui qui avait la place la plus importante. Donc, il est maintenant, il fait partie de ta famille. Et puis, soit dans le Seigneur, c'est-à-dire il fait partie de la famille de Dieu. Désormais, non seulement il va te servir, mais il va aussi servir le Seigneur. Voilà. Bon, alors, que fait Paul ? Ben voilà, il dit... Voilà, si tu me tiens pour associé ou pour ami, c'est-à-dire quelqu'un de proche, reçois-le comme moi-même. S'il te plaît, prépare-moi un logement, parce que peut-être que je... Prépare-en un aussi pour Onésime. Reçois-le comme moi-même. Mais s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-moi-le en compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main, moi, je payerai. Alors, pour qu'il n'y ait plus rien... Qui se glisse dans les relations entre Paul et Philémon, entre Philémon et Onésime, entre Onésime et Paul, il faut que tout soit transparent. Hein? Et on ne sait pas, en fait, s'il a réellement pris quelque chose, mais ça a bien l'air, hein? Ça a bien l'air, puisque Paul dit, moi je payerai. Il faut que tout soit réglé. Hein? Onésime, il n'avait peut-être pas fait des économies à Rome, dans la prison, en servant Paul. Paul, il ne devait pas avoir grand-chose pour subsister. Donc, il ne devait pas avoir fait des économies pour rembourser Philémon. Donc, Paul dit, moi, je payerai. Paul, est-ce que Paul avait beaucoup d'argent ? À votre avis ? Oh, bon, moi, à mon avis, non. Ce n'était pas, comment on appelait ça, il ne prêchait pas l'évangile de prospérité. Il n'avait pas... Un char à quatre chevaux en quadrige pour aller de Rome à Colosse. Hein? Voilà. Alors, Paul souhaite que la relation soit la même entre lui et Philémon, entre Philémon et Onésime, entre Onésime et lui, qu'il y ait cette même relation de frère. Hein? Voilà. Et il est prêt à ce moment-là à payer, et quitte, comme il le faisait à je ne sais plus où, à Éphèse, sans doute, non, c'était à Corinthe. Il faisait des tentes. Il fabriquait des tentes pour payer pour se nourrir lui-même. Voilà. En même temps, pourquoi il propose de payer cette dette ? Parce qu'il a été racheté d'une dette beaucoup plus importante, une dette qu'on ne pouvait pas payer nous-mêmes. Hein. Jésus-Christ l'a racheté de cette dette. Jésus-Christ a racheté la dette de Paul. Jésus-Christ a racheté la dette de Philémon. Jésus-Christ a racheté la dette d'Onésime. Et Jésus-Christ a racheté la dette de Jean-Paul. Et tout cela, ça nous donne quelquefois envie, pas toujours, mais souvent, envie de dire, bon, il me doit quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que c'est en rapport avec ce que Dieu m'a pardonné, avec ce que Dieu m'a remis ? Voilà. Et Paul, il est sûr. Hein, il dit, j'ai confiance. Hein. Je tire ce profit de toi. Rafraîchis mes entrailles. Si tu fais ça, eh bien, ça me fera plaisir. Ça me serrera les entrailles de voir que tu acceptes de ce paiement de ma part plutôt que ce soit Onésime qui le fasse, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va peut-être voir un petit peu ce que c'était que l'esclavage, parce que Paul, on était dans le monde romain, on en a parlé un petit peu, mais Paul avait un arrière-plan aussi juif. Et qu'est-ce que c'était que l'esclavage dans la loi, hein ? Alors, il y avait des esclaves en Israël. Donc, c'était prévu, c'était comme ça, c'était la façon de l'époque. Quand on faisait la guerre, on prenait des esclaves, on pouvait les acheter. Et puis, les esclaves en Israël étaient circoncis. Hein, c'est, Dieu donne cet ordre à Abraham, tu circonciras celui qui a été acheté aussi, avec l'argent. Et à ce moment-là, après, ils devenaient membres de la communauté d'Israël. Voilà. Et puis, ils pouvaient faire sa place aussi au niveau du peuple, être assimilés, participer aux fêtes. Ils pouvaient être corrigés, mais non tués ni blessés. C'est-à-dire que si un esclave était blessé, ne serait-ce qu'une dent, hein, d'après la loi, il devait être libéré à cause de sa dent. Ou son œil. Il est parlé de la dent et de l'œil. Et puis, un esclave pouvait s'élever dans la société. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'un esclave qui s'est élevé très haut dans la société? Non? Joseph, il n'était pas esclave, lui, au départ. Hein. Chez les Égyptiens, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, je parle chez les Juifs. Alors, un qui a été acheté à prix d'argent à Damas et qui est devenu intendant de toute la maison de son patron. Et l'héritier même. Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham. Hein, il a été acheté à Damas à prix d'argent et puis il est devenu intendant de toute sa maison. Et même mon héritier, dit Abraham, c'est Eliezer de Damas. Ça veut dire qu'on pouvait devenir dans la maison, même celui qui héritait. Voilà. Alors, on pouvait devenir esclave aussi à cause des dettes. Hein. Et puis, comme on l'a vu avec qui nous a parlé de l'année sabbatique, c'est bon, hein. Non, ne te cache pas. L'esclave était libéré à la septième année, ou bien, au pire, au jubilé. Voilà. Et puis, contrairement aux Romains, l'esclave fugitif n'était pas livré à son maître. On devait le recueillir dans la ville où il veut se réfugier et lui donner un logement. Voilà. Donc, il y a quand même des différences importantes avec l'époque romaine. Et quelle est la raison de cette bienveillance envers les esclaves ? C'est parce qu'ils ont été plus forts. Parce qu'ils ont été esclaves en Égypte. Dieu dit, rappelez-vous, hein, comment c'était en Égypte. Et puis nous, c'est un peu pareil, hein, et, par rapport à ce que je disais pour la dette d'Onésime. Rappelle-toi la dette que tu as pour moi et comment tu as été racheté. Rappelle-toi, hein, comment tu étais en Égypte quand tu étais esclave. Qu'on te faisait faire des briques et des briques et des briques, et puis en plus, on ne te donnait pas de paille pour faire les briques, et puis après, hein, etc., et les coups de fouet et tout le bazar. Hein. Donc, voilà, rappelle-toi. Et puis, un esclave pouvait décider de servir son maître définitivement. Hein. On trouve ça dans Exode 21, il disait, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. D'ailleurs, je ne comprends pas bien cette histoire, parce que ça me choque un petit peu, moi. Si quelqu'un a une explication tout à l'heure, je la prendrai volontiers. Comment ça se fait que son maître lui donne une femme, il a des enfants, et puis après, quand il doit partir, il laisse sa femme et ses enfants. Ça, je ne trouve pas ça bien. Mais bon, je ne sais pas, il y a peut-être une explication. Moi, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais lui disait, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre, ça veut dire je veux être resté ton esclave. Voilà. Bon, alors maintenant, Jésus et l'esclavage. Ben, Jésus, il parle beaucoup de l'esclavage. Il ne dit pas un mot contre l'esclavage. Voilà. Alors, il y a plusieurs paraboles. Il y a le serviteur impitoyable, il y a les noces, il envoie ses esclaves, les vignerons. Hein, les vignerons, le maître envoie un esclave, on le tue, il en envoie un deuxième, on le tue, il en envoie un troisième, on le tue, on... Voilà, attends, c'est pas très... les mines et les talents. Les mines, alors, les mines, je ne sais plus combien ça vaut, une mine, un talent, c'est énorme. Est-ce que tu donnerais un... T'as un domestique là, qui te sert. Tiens, prends ce million et fais-le valoir pour moi. Hein, 1 million d'euros, hein, et tu le fais valoir, je reviens dans 15 ans ou dans un certain temps, débrouille-toi. Hein. C'est pas tellement une manière... Donc, l'esclavage n'était pas forcément une chose mauvaise, enfin, mauvaise en soi, où les gens étaient malheureux, comme dans la case de l'oncle Tom, ou dans l'imagerie qu'on s'en fait, nous. Hein. Puisqu'un esclave pouvait avoir 5 talents, donc c'est un talent chacun, je ne sais plus, c'est pas grave. Hein. Voilà, un talent, de toute façon, c'est une somme énorme. Le père de Luc 15, le père bienveillant, celui qui avait tellement d'amour pour son fils, il a des esclaves. Le fils, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, les esclaves là-bas chez mon père, ils ont tout ce qu'il faut, et puis moi, je crève de faim ici. Hein. Voilà. Et puis, le Seigneur souligne aussi certains bons comportements. Le centurion qui avait un serviteur, il dit, mon serviteur est malade, s'il te plaît, viens le guérir. Il y avait des gens qui étaient bons pour leurs serviteurs selon ce que Dieu veut. Hein? Voilà. Alors Jésus n'est pas venu s'occuper de l'esclavage physique. Hein, il est venu nous affranchir d'un esclavage bien plus dur et plus profond que celui des hommes pour être réellement libre. Ah, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. C'est quand même scotchant de voir que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous cherchez à me faire mourir. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce qu'il leur dit la vérité et qu'ils n'acceptent pas cette vérité. Alors ils avaient cru en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils espéraient peut-être qu'il est celui qui devait délivrer Israël, qu'il allait montrer sa puissance et ça. Et puis il leur dit, mais ils espéraient, ils disent, nous ne fûmes jamais dans la servitude de personne. Bon, il y avait les Romains à ce moment-là, et puis apparemment ils n'avaient pas passé longtemps dans la liberté, ces gens-là. Mais ce qu'ils voyaient seulement, c'est cet esclavage des Romains. Et ils pensaient que le Seigneur allait les délivrer de ça. Et puis il leur dit, vous allez être délivrés, vous êtes esclaves du péché, vous allez être délivrés du péché. C'est vrai que ça ne fait pas tellement plaisir de s'entendre dire qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être affranchi du péché. Et pourtant, c'est une réalité. Romains 6, ne savez-vous pas que à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu de ce que vous étiez esclave du péché, mais qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine à laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous avez été asservi à la justice. Maintenant, vous avez été affranchi du péché et asservi à Dieu, et vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle, car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je me rappelle cette histoire d'un prof d'université qui parlait toujours à ses élèves de son jardin. Il disait, quand je suis dans mon jardin, alors je pense à ça, ça faisait tout un truc. Et puis, quand je suis dans mon jardin, alors j'ai pensé à ce truc à vous dire, et les étudiants disaient, peut-être ça doit être un jardin comme ça. Pour qu'il ait... Alors, ils se sont débrouillés pour se faire inviter chez le prof. Ils sont arrivés chez lui. Et puis, il est où, votre jardin? Eh bien, il est là. Alors, ils sont sortis, c'était un petit carré comme ça, en béton, dans une ville. Hein. Il n'y avait pas un immense jardin avec des arbres. Non, il y avait un petit carré en béton. C'était son jardin. Mais en haut, il y avait le ciel. Hein. Enfin, ça, c'est moi qui interprète. Et quand il se promenait dans son truc, il avait les pensées qui s'élevaient au-dessus. Et c'est vrai que souvent, on est dans notre petit truc, on aimerait bien être délivré de notre petite souffrance actuelle. Et puis, on se laisse embobiner par le péché, par des addictions, par des pensées. Hein. On pense, et puis on pense... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais malade. Hein, il y a une pensée qui arrive. Et si je ne la stoppe pas tout de suite, elle se met à tourner dans ma tête. Alors, je suis nul. Mettons, ça m'est arrivé souvent de penser que je suis nul. Je suis nul. Et alors je dis non, attends. Oui, mais quand même, t'es nul. Oui, mais quand même, t'es nul. Et ça tourne comme ça, et t'arrives plus à t'endormir, parce que à force de penser que t'es nul, eh bien, tu arrives à croire que t'es nul. Hein? Allez, et on devient esclave de ces pensées, sans que cela ait quelque chose de mauvais au départ, parce que c'est vrai finalement que je suis nul. Mais... Merci de dire le contraire. Merci. Voilà. Christ nous a placés dans la liberté. On revient à la liberté en nous affranchissant. Ah, je perds ma... Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Alors, Jésus a pris la forme d'esclave pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit que le Créateur de toutes choses, le Seigneur du ciel et de la terre, a pris cette forme d'esclave, ça doit nous titiller un peu, et puis peut-être que nous, on a du mal à servir les autres. Mais Jésus a montré l'exemple suprême. Il est venu pour servir, pour être esclave et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et c'était prophétisé. « Je ne suis pas prophète, dit Zacharie. Je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. » Et on lui dira, « Quelles sont ces blessures à tes mains ?» Et à la suite de Jésus, les apôtres et d'autres aiment à se nommer esclaves de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, Paul, on l'a vu. Hein, mais Paul, Pierre, Jacques, Jude et Jean dans l'Apocalypse se disent esclaves de Dieu ou esclaves de Jésus-Christ. C'est plus qu'un désir de servir, c'est aussi pour eux un titre de gloire. Mais... ce sont des esclaves amis. Hein? Jésus dit, je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Des esclaves amis, aimés et aimants. Et puis aussi des esclaves enfants. Galates 4, versets 4 à 7, tu n'es plus esclave. Mes fils, et si tu es fils, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Voilà la position que Jésus nous a donnée par son œuvre sur la croix. Des esclaves, c'est sûr, des gens qui servent à quelque chose, mais aussi des amis, des enfants. Alors, Paul, que dit Paul? Alors, Epaphras et Tychique sont des co-esclaves de Christ. Ils sont esclaves avec l'apôtre Paul. C'est-à-dire que ce sont des gens qui servent aussi. Dans l'Épître aux Colossiens. Et dans la Nouvelle Création, Paul dit, il n'y a pas de différence de nationalité, d'origine et de condition. Paul ne parle pas à Philémon dans cette épître. Et pourtant, il y a des allusions qu'il pourrait comprendre. Les esclaves, pour le nouvel homme, à l'image de Christ que nous sommes appelés à revêtir, il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, pas de juif, pas de grec, pas de barbare. Les barbares, c'est ceux qui barbare, qui parlaient de manière à ce qu'on ne comprenne pas. Les scythes, alors les scythes, je ne sais pas ce que c'est que les scythes, mais apparemment c'était des barbares aussi. Esclaves, hommes libres. Il n'y a plus esclaves et hommes libres, mais Christ est tout en tous. Alors, il n'y a plus d'esclaves, il dit l'apôtre Paul. Et un peu plus loin, il dit, les esclaves sont appelés à obéir à leur maître et à le faire de cœur. C'est un peu contradictoire, ça. C'est ce qu'on a vu un peu avec Pierre-Henri et puis d'autres. Oui, libéré, mais pas libéré. On est libéré comment ? On est libéré de nos péchés, on est libéré de nos chaînes, on est libéré de toute notre vie d'avant. Et on est appelé à servir, à servir Dieu. Alors, les esclaves sont appelés à obéir à leur maître et à le faire de cœur, leur véritable maître étant le Seigneur Jésus-Christ. C'est au chapitre 3 des Colossiens. Alors ça, Philémon, il a dû l'entendre aussi. Et puis, les maîtres sont appelés pour la même raison, parce qu'ils sont au Seigneur, à être justes et équitables dans ce qu'ils accordent à leurs esclaves, aussi au chapitre 3. Voilà, les esclaves obéissent, les maîtres soignent, ils servent tous le Seigneur Christ. Voilà. Alors, pas de différence, c'est vrai. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Plus de différence. Mais il ne donne pas un ordre anti-esclavagiste, Paul. Il avait le droit, il était apôtre. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en mets pas en peine. Mais toutefois, si tu peux devenir libre, use-en plutôt. C'est possible de servir le Seigneur dans les deux catégories. Pas de différence, mais... Et être esclave n'empêche pas de glorifier Dieu. Donc, dans ses épîtres, dans Timothée, ils doivent servir leur maître de façon que le nom et la doctrine de Dieu ne soient pas blasphémés. C'est quand même important. Est-ce qu'on pense à ça quand on a un service à rendre à quelqu'un, un service civique, on va dire, civil ? Est-ce qu'on sert de façon à ce que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés ? Est-ce qu'on sert Dieu de la façon comme il est dit à Tite, je crois, à orner en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Est-ce que ce qu'on fait en servant orne ce que nous savons, ce que nous croyons ? Alors, on va arriver à la conclusion. Alors, officiellement, l'esclavage est aboli dans le monde, vous savez, depuis 1980. Donc, 1980, le dernier pays à avoir ratifié l'abolition de l'esclavage, c'est la Mauritanie, qui a, donc ça c'est des statistiques de 2013, il y a encore, donc 80 à 2013, ça fait 33 ans après, il y a encore 45% d'esclaves en Mauritanie. Voilà. Alors, il y a le Soudan, il y a l'Inde, l'Inde qui a énormément d'esclaves. Alors, ce n'est pas un esclavage officiel, mais quand on est intouchable, ben, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose qu'esclave. Voilà. L'Inde, le Golfe Persique, etc. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Ah oui, il y a encore l'esclavage de la prostitution en Thaïlande, en fait dans les pays du sud-est asiatique, où c'est l'esclavage sexuel et qui est basé sur le tourisme sexuel. Il y a 2 millions de prostituées, dont énormément d'enfants.
2 millions où ?
en Thaïlande.
Mais le travail forcé, pas les travaux forcés, hein, pas les travaux qu'on fait quand on est condamné à une peine de travaux forcés, le travail forcé, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas payés pour le travail qu'ils font et qu'on les oblige. Donc là, il y a énormément de migrants, sans doute, mais aussi 21 millions de personnes dans le monde. C'est des estimations. Hein. Il y a le travail des enfants de 5 à 14 ans. Il y a 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans qui travaillent, dont 50 à 60 millions qui font un travail dangereux. Les remboursements de dettes. Alors, chez nous, on peut dire, tu travailles pour moi pendant 10 ans. Rappelez-vous, Jacob, 7 ans pour une femme. Hein? D'accord ? Bon, dans certains pays, la dot coûte tellement cher qu'on est obligé de s'endetter à vie pour pouvoir se marier. Et même des fois, ça ne suffit pas de la vie, il faut que les enfants continuent à payer. Ou des dettes, parce que, à cause de la pauvreté, bien sûr. Et dans certains pays, ça mène aussi à la prostitution. Dans les pays de l'Est, c'est arrivé qu'on vende une fille pour payer une dette, etc. L'exploitation des migrants, l'exploitation sexuelle, etc. etc. Voilà, donc 2013, la carte de l'esclavage dans le monde. Donc l'Inde, la Mauritanie. Et puis, il y a quelques pays en gris, ici. La Corée du Nord, le Bhoutan, où on n'a aucune statistique valable. Donc, vous savez quel est le premier pays à avoir aboli la traite des hommes ? J'en ai pas. Hein ? Non. Enfin, avoir fait une loi qui interdit la traite des hommes. Allez, lève la main. C'est le Danemark. Hein? Le Danemark. Et puis, quelques temps après, l'Angleterre, avec M. Wilberforce. Voilà. Mais on est loin du compte. On est loin du compte. Hein? On est en 2019, et il y a encore l'esclavage partout, partout, partout dans le monde. Et on s'aperçoit que de temps en temps, en France, il y a une petite affaire qui sort. Ça veut dire qu'il y en a aussi en France. Bon, alors, quelle est l'attitude du croyant face à des situations injustes, honteuses, permises par la loi ? Alors, j'ai mis dans les situations injustes ou honteuses, j'ai mis la guerre, parce que je ne pense pas qu'il y ait de guerre juste, ni de guerre qui ne soit pas honteuse. Les persécutions, l'esclavage, les profits honteux, la corruption, l'exploitation. Alors, quel est... on a déjà vu cette semaine-là une façon de vivre. C'est laquelle ? C'est Romains 13, 14. Romains 13, je ne sais plus. Hein. Et ça se termine par quoi ? Romains 13 ou 14, je ne sais plus lequel c'est. C'est 14. Non, je ne sais pas où c'est. Okay. Ah, si, c'est 13. Oui, c'est ça, chez Romains 13. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, etc. Alors, on est toujours dans le même schéma qu'on a vu plusieurs fois cette semaine. Se soumettre aux autorités, oui, mais ça n'empêche pas Paul de dénoncer son arrestation arbitraire à Philippe. Hein, il dit, attends, tu nous as mis en prison, mais nous qui sommes... Romains, c'est des Romains. Allez, s'il vous plaît, allez-vous-en. Ah non, vous venez nous chercher, vous, les notables, vous allez venir nous chercher et nous faire vous-même sortir de prison. Hein? Vous est-il permis de fouetter un homme qui est roumain, qui n'est pas condamné? Qu'est-ce que tu vas faire parce que c'est un roumain? Ils ont la trouille. Est-ce qu'on a le droit de revendiquer notre dignité de chrétien? Oui. Est-ce qu'on a le droit de dire on n'est pas d'accord? Oui. Hein? On a le droit de dire ce qui est juste. Hein? Quand il est devant Félix, hein, le père Paul, là, hein, et qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Il lui dit, voilà, hein, c'est comme ça et pas autrement. Hein? Les prophètes de l'Ancien Testament, ils dénonçaient aussi ça, hein? Les troubles sociaux dans leur temps. Quand on voit un Jérémie, qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Je ne sais plus. Ah, il faut que je fasse ça. Hop. Je n'ai pas noté. Ou j'ai noté ailleurs. Je ne sais plus. Alors, Jérémie, il dit, vous avez libéré vos esclaves, hein? Et à peine on avait le dos tourné, vous les avez repris. Vous pensez que Dieu va supporter ça? Hein? On a lu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, on a lu Ésaïe 58. Vous jeûnez. Qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne? Ben, le vrai jeûne, c'est de laisser partir les esclaves, de libérer, de donner à manger. C'est ça le vrai jeûne pour Dieu. Ce n'est pas s'abstenir de manger et faire une gueule de 6 pieds de long. Hein? Et Néhémie, qu'est-ce qu'il fait Néhémie? Il prend les Juifs qui avaient pris leurs frères comme esclaves et leur dit, mais n'importe quoi, vous êtes à peine libérés du joug des Mèdes et des Perses là-bas, et puis vous prenez vos propres frères en esclaves. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, hein? Ils sont pas tellement tendres pour... hein? Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui a dit à Carlos Ghosn là-bas, hey, t'as vu ta paye? Et tu payes ton ouvrier 1 200 € par mois? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais n'importe quoi! Heureusement qu'il y a les Japonais qui l'ont fait.
Ouais. Heureusement qu'il y a les gilets jaunes. Hein.
Ah oui, absolument. Alors moi, je voulais sortir mon gilet jaune, je l'avais mis sur le truc. Mais ma femme, chaque fois, elle le mettait dans son truc. Voilà. On est demi-gilet jaune. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Alors. Les prophètes à qui ils parlaient? Ils parlaient à Israël, parce que c'était Israël qui était le peuple de Dieu. Et nous, on peut parler aussi, on peut dire ces choses, mais on peut, avec autorité, aussi dénoncer ces choses dans l'Église, quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas juste, je pense. Hein? Mais comment se termine Romains 13? C'est ça qu'il faut voir. Comment se termine Romains 13? Soyez soumis aux autorités, soyez soumis. Romains 13, je ne lis pas tout à fait la fin du chapitre, mais... car ce qui est dit, tu ne feras pas, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, donc, est la somme ou le sommet de la loi. L'amour est la somme ou le sommet de la loi. Voilà, je crois que c'est ce que j'aimerais laisser devant vous. Paul ne se dresse pas contre la loi, mais il s'occupe de la maison de la foi. C'est dans ce cadre qu'il a autorité, qu'il enseigne, qu'il appelle à une vie juste, à des relations fraternelles empreintes d'amour. Et on pourrait terminer encore par... Alors, encore une parole de Paul. « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Quoi que vous ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Donc je parle ayant égard à la privation, car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Il aurait pu dire aussi, j'ai appris à être esclave aussi bien que libre. Alors, content ou pas content? Hein? On est un ado content ou un ado rebelle? Un agriculteur content du temps, des récoltes, des prix? Alors ça, je le zappe, j'ai mis automobiliste content ou pas content? Qu'est-ce que je fais dans un embouteillage? Je râle? Moi, oui, je râle. Bon, un contribuable content? Un enfant content de ses parents, de ses cadeaux, de ses épinards? Un Français content? Ça, je crois que ça n'existe pas. Un garçon content d'être un garçon ou qui a envie de devenir une fille? Une fille contente d'être une fille? Un héritier content? Ça, c'est de plus en plus dur. Hein. Un mari content de sa femme? Et la femme de son mari? Paul, dans les privations, content. En prison, content. Alors, je vous relis ce verset. J'ai appris et j'apprends à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Et, comme on le disait hier, à dire merci, à bénir le Seigneur. Merci.
Merci, Yann. Alors, moi, je vous présente, vous n'en étiez pas aperçu, mais un homme libéré. Vous savez pourquoi ?